Bonjour à tous, Boker Tov les Koulam, et on revient dans notre étude hebdomadaire sur la Tefila. Nous sommes lundi, et donc lundi on essaie d'étudier ensemble la Tefila. Nous sommes rentrés, ça y est, après maintes introductions, nous sommes rentrés dans les brachot de la Shmoneh Esrei. Et pendant les deux cours précédents, nous avons étudié la première bracha de la Shmoneh Esrei. Alors on se rappelle que les trois premières brachot vont avoir un rôle différent de la Shmoneh Esrei, du corpus de la Shmoneh Esrei, à savoir les demandes qu'on va faire envers Dieu. Les trois premières brachot ne sont pas des demandes, ce sont birkot à shevar, ce sont des brachot où non pas, comme j'avais dit, on passe la pommade, c'est une formule un petit peu provocatrice, mais en fait on vient tout simplement dire à qui on s'adresse. Dans la première bracha qu'on a évoquée donc ensemble, eh bien pour être plus exact encore, c'est pas seulement qu'on dit de manière générale à qui on s'adresse, mais on vient dans la première bracha justement spécifier et répondre à la question « mi ». Miata, tu es qui pour moi, Dieu? Et donc, c'est ça qu'on vient répondre dans la première bracha qu'on a évoquée pendant les deux cours précédents. Dans la deuxième bracha, eh bien, on vient répondre à une autre question. Si la première bracha répond à mi, eh bien, la deuxième bracha répond à ma. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux me donner? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que maintenant que je sais à qui je m'adresse, qu'est-ce qui est, pour moi, ce que l'infini peut me donner? D'accord? Et donc, c'est à ça qu'il va falloir répondre dans la deuxième bracha. Alors, allons-y. Ata Gibor. Et là, on commence par du lourd, tout de suite. Alors, la notion de Gibor, on l'avait déjà évoquée dans la première bracha, dans le concept Gadol, Gibor, Venora. Et on avait expliqué à ce moment-là que Gibor, ça voulait dire celui qui nous ramène d'exil. Mais ça, c'était quand on le mettait dans le tsem, dans la triplette, Gadol, Gibor, Venora. Quand il est pris séparément, que veut dire le mot Gibor? Eh bien, comme vous le savez, les amis, Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous au travers de sa volonté. Sa volonté, c'est la Torah. Mais dans la Torah, ben, il est évident que tant la Torah écrite que la Torah orale doivent nous dévoiler ses voies à lui. Ce qui veut dire qu'il est tenu, entre guillemets, de respecter sa Torah. Or, eh bien, dans la Mishnah de Pirkei Avot, on nous donne cette phrase incroyable que vous connaissez, « Ezehu Gibor Akovesh et Yitzro ». Qui est le Gibor? Eh bien, c'est celui qui domine son Yetzer, son penchant. Bon, je comprends ça pour moi. Moi, qui avais problème, je sais pas, de colère, de gourmandise, de ce que tu veux. Eh bien, si j'ai des problèmes comme ci, comme ci, comme ça, c'est mon yetzer. Donc, être gibor, c'est réussir à vaincre cela. Il n'y a pas de grande chorma et de grande gvoura, je sais pas, pour moi, par exemple, d'être, comment te dire, j'ai pas vraiment de yetzer d'être voilà, c'est dur quand on parle de soi. Je pense pas avoir un grand yetzer d'être la personne la plus rapide du monde. Voilà, je c'est pas un yetzer pour moi d'être médaille d'or olympique d'athlétisme. Donc c'est pas une grande gvoura pour moi de pas m'entraîner tous les jours. Mais pour Usain Bolt, c'est une grande gvoura, c'est pour lui de ne pas s'entraîner, c'est bien. Mais vous comprenez, la Gvoura, c'est là où il y a un Yetzer. S'il n'y a pas de Yetzer, il n'y a pas de Yetzer. Donc, chez moi, il y a plein de Yetzarim, donc je peux être Gibor à plein de niveaux. Super. Mais Dieu, il y a un endroit où il y a un Yetzer qu'il doit dominer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les amis, en fait, c'est très simple. Bevadaï, Dieu, il a un Yetzer énorme qu'il doit dominer. C'est quoi son Yetzer à Dieu? Ben, c'est d'être Dieu. Tout simplement. Le Yetzer de Dieu, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les amis, comprenons bien. Dieu, il est grand comment? Ben, Dieu, il est grand comme ça. Ensof. Infini. Donc, si Dieu, il est infiniment grand, il prend toute la place. Les amis, avant la création du monde, il y avait quoi? Il y avait qui? Ben, il y avait Dieu. Il était où? Ben, partout. C'est-à-dire qu'il n'y avait que Dieu. Donc il n'y a que de place pour rien d'autre s'il y a Dieu. Vous savez, prenons une expérience scientifique de très haut niveau. Je prends un cône, oui, qui a servi de chapeau d'anniversaire de ma fille. Donc, je prends un cône. Ce cône, hop, là, il est plein. Il est plein d'air. Il est plein d'air, bien sûr. Si je veux maintenant y mettre cette gomme dedans, eh bien, je dois pousser l'air, faire sortir le volume d'air correspondant à la gomme pour lui faire de la place. C'est pas chouette. Des concepts de physique de base. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu, il prend toute la place, il y a de place pour rien d'autre. S'il veut qu'il y ait de la place pour quelque chose d'autre, il faut faire de la place. C'est exactement ce qui est marqué dans le début de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Alors, je ne rentre pas aujourd'hui sur la compréhension du mot Bereshit, qui évidemment ne veut pas dire au commencement, bien sûr. Toute personne qui pense que Bereshit veut dire au commencement est soit quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu, soit quelqu'un qui, pire, sait lire l'hébreu et ne le comprend pas. Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais ce n'est pas ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais que veut dire le mot bara? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Créer au commencement, qui n'est pas au commencement, Dieu a créé le monde. Et ça veut dire quoi? Bara, voilà, exactement. Bara, c'est, en arabe, on dit bra, ça veut dire dehors. Bara en araméen, ça veut dire bachutz. Mis à l'extérieur. Exactement, tu dis, un fils, ça se dit ben en hébreu, mais bar en araméen, parce que le fils est l'extériorité de ses parents. Donc, effectivement, bar, ça veut dire à l'extérieur. D'ailleurs, en français, on dit ça également. Et oui, le mot exister en français est une conjonction de deux mots. En latin, ex, ist. Dehors, être. L'existence, c'est être dehors. Bachutz, liyot. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Pour que le monde puisse exister, Dieu l'a mis à l'extérieur. En d'autres termes, il lui a fait de la place. C'est ce que nos sages de la Kabbalah appellent le sod atzimtzum, le secret de l'amincissement. Dieu nous a fait de la place. Le yetzer de Dieu, c'est de prendre toute la place. Avalata gibor, tu nous laisses de la place. Ata gibor, le olam. Alors le olam, le olam, ça veut dire quoi? Ça dépend. Ça dépend si tu demandes au Tanakh, à la Bible. Il s'est néantisé. Ça veut dire quoi néantisé? Annihilé? C'est ça que tu veux dire? Non, je pense pas que si tu parles, il s'est néantisé, genre il n'est plus là. Il est effectivement plus là, il nous laisse de la place et il ne met ici dans le monde que son dévoilement. Je te donne un exemple, les Havdil, bien évidemment, Elef Alfe Havdalot, la planète Terre, voilà, il nous laisse de la place. La planète Terre pourrait complètement être mise à l'intérieur du Soleil. Si le Soleil se met à la place de la Terre, il n'y a plus de place pour la Terre. Donc le soleil nous a fait de la place, mais on ressent quand même son dévoilement, à savoir ses rayons, sa chaleur, sa lumière, ce que tu veux. Donc la Havdil, Elef, Elef, Alfe, Havdalot, Kadosh Baruch Hu, il a laissé de la place au monde, mais on ressent son dévoilement. Il y a une différence entre le dévoilement et l'essence de la chose. Donc, Ata Gibor, mais Léolam. Et donc, quand on demande au Tanakh, Slicha, Léolam, ça veut dire pour l'éternité. C'est une notion temporelle. Alors que si on demande au Talmud, eh bien, l'olam, ça veut dire le monde, l'univers. C'est une notion spatiale. Donc là, ça veut dire quoi? Eh bien, nous savons bien que la tefila a été écrite batefer, c'est-à-dire à la croisée des chemins entre la fin de la Bible et le début de l'enseignement oral. Donc, eh bien, c'est les deux. Ata gibor l'olam. C'est-à-dire que tu nous laisses de la place tant dans l'espace que pour l'éternité. C'est un dévoilement spatio-temporel ou justement un dévoilement par le fait de l'amincissement et dans le temps et dans l'espace. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit que Dieu a fait de la place, on pourrait à tort penser que bah, il ne gère plus. Il est, voilà, j'ai créé, j'ai fait de la place, maintenant débrouillez-vous. C'était le concept du divin dans les philosophes aristotéliciens du XIIe siècle, qui pensaient que si déjà on peut admettre l'idée d'un grand constructeur, bah, une fois qu'il a créé, ça y est, il ne s'occupe plus de ce qui se passe ici-bas. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a dit « Atagibor leolam », on dit « Adonai ». Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est-à-dire la notion de patron. Adon, c'est le maître. Donc on dit, Atagibor leolam, mais tu restes quand même Adonai. Tu restes quand même mon patron. Ok, maintenant que j'ai dit ça, on a dit, il faut que je sache qu'est-ce que tu peux me donner. Eh bien, vous allez voir qu'il y a dans cette bracha une dimension qui revient souvent. Alors, je vais lire vite fait la bracha. Vous allez me dire si vous trouvez une dimension qui revient souvent. Donc, Ata gibor leolam Adonai mechayem etim ata rav leoshia moridatal mishivaruach moridagesh moniver mechayem bechesed mechayem etim berachamim rabim somek noflim verofe cholim matir asurim umkayem emunato lishene afar mi chamocha baal gevurot umidomelach melech memit umechaye umatzmiach yeshua venema ata lachayot metim baruch ata Hashem mechaye ametim. Est-ce que par hasard il y aurait un concept qui revient souvent dans la bracha? Évidemment, vous avez compris, Triat Ametim, bien sûr. Et c'est ça, le concept de référence. Qu'est-ce que Dieu peut me donner par excellence? La vie. Voilà, je vais demander plein de choses dans la Tchmonetre. Mais d'abord et avant tout, il faut que je sache que toutes ces choses que je vais demander ne sont que des nixeret, des dérivés de la vie. En d'autres termes, qu'est-ce que tu peux me donner, Dieu? La vie. Et vous allez voir que puisque ce terme revient souvent, eh bien, ça veut dire qu'il a également plusieurs significations. Alors, allons-y. Mechayim etim ata, rav leoshia. Pourtant, il n'en est fait aucune promesse dans la Torah. De quoi? De donner la vie? Ben, on n'a pas besoin qu'il y ait une promesse dans la Torah. Il nous donne la vie. Je te rappelle que s'il y a Torah, c'est qu'il y a des gens pour recevoir la Torah. S'il y a des gens pour recevoir la Torah, c'est que Dieu leur a donné la vie. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que Dieu me promette qu'il me donne la vie. Ouvda, il me donne la vie. Ok ? Maintenant, ce n'est pas que moi. C'est le monde entier. Vous savez, il y a aujourd'hui deux théories scientifiques qui s'opposent. Est-ce que le monde, l'univers, est en une augmentation constante ? Attends, justement, on va voir. Est-ce que le monde est en augmentation constante, ok, ou est-ce qu'on est adepte de la théorie de l'entropie qui dit qu'à un moment donné, tout va s'effondrer sur lui-même et tout va partir en live? En d'autres termes, est-ce que on est pessimiste ou est-ce qu'on est optimiste? Est-ce que le kivun général, la direction générale, c'est vers la vie et la progression ou vers la destruction? En fait, ce débat scientifique est d'abord une marloquette entre nos sages, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Sur quoi? Eh bien, nous dit le Talmud que Yechezkel a un avis, enfin, c'est pas le Talmud, dans le livre de Yechezkel, chapitre 36 et 37, on voit que Yechezkel va ressusciter des morts. Maintenant, le Talmud va se disputer de savoir, ok, ces morts sont relevés, ils ne sont pas restés très longtemps, ils ont chanté, ils sont retombés. Mais qu'est-ce qu'ils ont chanté? Et c'est là la grande marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Pour Rabbi Eliezer, ces morts ont dit Hashem memit betzedek ou mechaye bedin ou mechaye berachamim. C'est-à-dire que Dieu tue, c'est normal, c'est la logique des choses. Pour qu'il y ait mechaye, il faut beaucoup de rachamim. C'est pas normal. Donc, il est plutôt pessimiste en disant que la direction générale, c'est... Alors que Rabbi Yehoshua, lui, il dit que ces morts ont chanté et ils ont dit « Hashem morid sheol vayal ». C'est-à-dire qu'il fait tomber, mais il fait aussi se relever. Comme une espèce de grosse bouée que tu appuies une pression pour la faire tomber dans l'eau, tu la maintiens au fond de la piscine, mais lorsque tu lâches, bah, sa direction générale, c'est de remonter. Donc, qui a raison? Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua? Eh bien, il semblerait que Rabbi Eliezer, le Maharal de Prague, dit que c'est Rabbi Eliezer qui a raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que si Dieu n'accepte pas de me rendre la vie le matin, ben je ne vis pas. C'est tout simple. C'est-à-dire que non, ce n'est pas naturel de se réveiller le matin. Oui, il y a plein d'éléments physiologiques qui font que je me réveille, que mon corps il marche bien. Mais au final, il faut quand même que Dieu il me rende ma neshama, sinon je ne me réveille pas. En mal à sorte. Et c'est ce que Rabbi Chaim de Volozhin explique dans le Nefesh HaChaim, dans la deuxième partie, sur la Tfila, lorsqu'il dit, on a un problème, parce qu'il y a marqué dans les brachot du Shema, que Akadosh Baruch Hu mechadesh bechol yom tamid ma'ase bereshit, qu'il renouvelle chaque jour les actes de la création. Pourtant, on sait bien dans la Torah que le septième jour, il a arrêté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit Rabbi Chaim de Volozhin qu'en fait, ça veut tout simplement dire que chaque jour, il remet sa volonté qui est le monde. Parce que s'il enlève sa volonté, pouf, le monde n'existe plus. La vie n'existe plus. En d'autres termes, tant qu'il y a la vie, c'est que Dieu donne la vie. Si Dieu ne veut pas donner la vie, il n'y a pas la vie. C'est-à-dire, c'est pas si Dieu il décide de m'enlever la vie, bah, petit à petit, je vais décliner. Non. Si Dieu décide de m'enlever la vie, pouf, je ne suis plus là. Pouf. Aujourd'hui, dans les films de science-fiction, on pourrait parler de ça facilement. On dit, en fait, c'est quoi la vie? C'est tout simplement lorsqu'il y a une connexion atomique, lorsqu'il y a de la chaleur, de l'énergie, alors les choses bougent. Eh bien, pour annihiler toute vie, il faut arriver au zéro absolu. Ben, les deux, du coup. Toi, tu utilises Echesed et Gvura. Tu te réveilles le matin avec Chesed Gamour, c'est pour ça que tu dis Modé Ani, tu as reçu la vie de Chesed, et le soir à Mincha, tu rends compte de Gvura que la vie que tu as reçue ce matin, elle vaut quelque chose, tu en as fait quelque chose. Ok? Donc en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la vie à chaque instant. C'est ça que je suis en train de dire. Mechaye Metim Ata Rav Leoshia. Mais c'est Rav. Rav, c'est infini. Rav, c'est Gadol. Mais Gadol, s'il n'y a pas de barrière, bah Gadol par excellence, c'est l'infini. Rav le Hoshia. Certes, ta délivrance est infinie, car tu es celui qui donne la vie. Et là, vous allez voir qu'en fait, cette vitalité que Dieu donne, eh bien, elle a plusieurs façons de se dévoiler. On a dit, c'est ce que je viens de te dire. C'est que Dieu te donne la vie alors que tu n'as rien fait pour ça. Mechayem etim berachamim rabim. C'est-à-dire que pour toi et moi, il nous donne des chesed. Mais il y a des gens pour qui, ou mechaye otam, mais berachamim. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de rachamim pour vivre. On a dit, c'est quoi rachamim? Rachamim, c'est lorsque Dieu donne le temps. On avait expliqué ça dans les premiers cours. Donc, lorsque Dieu me donne le temps, alors, ben, je vais avoir le temps d'y arriver. À être quoi? À mériter ma vie. C'est qui ces gens dont on fait référence lorsqu'on dit bah, berachamim rabim, que j'ai besoin de beaucoup de rachamim pour qu'ils vivent? Eh bien, il s'agit des rechaïm. Les rechaïm ne méritent pas leur vie. Mais Dieu leur laisse le temps de faire tshuva et donc de mériter leur vie. Et c'est pour ça qu'on dira dans le Tehilim, Yitamu chattaim min haaretz urechaïm odeinam, barchi nafshi et Hashem, alléluia. Machloket entre Rabbi Meir et Bruria, sa femme. Rabbi Meir vous disait que, en fait, il faudrait dire Yitamu lo chataim et la chotim, que disparaissent les fauteurs de ce monde. Et Bruria lui a dit, mais pas du tout, Dieu ne veut pas faire disparaître les fauteurs, il veut faire disparaître les fautes. Yitamu chataim, que les fautes disparaissent. Et le fauteur, à ce moment-là, il pourra être sans faute, donc plus fauteur, et revenir. Donc, Mechayem etim berachamim rabim, c'est pour les Rechaim leur laisser le temps. Somech noflim, verofe cholim, umatir asurim. À chaque fois, il s'agit de brisures dans les forces de vie. Somech noflim, à nefulim, c'est au niveau là-dedans. Somech anoflim. Il relève ceux qui sont tombés moralement. Verofe cholim. C'est ceux qui ont perdu la force de vie au niveau de la santé. Ou matir asurim et qui libère les prisonniers, c'est ceux que d'extérieur, on a empêché d'exprimer leur vitalité. Donc à tous les niveaux, Akadosh Baruch Hu donne la vie. Umekayem emunato lishene afar. C'est quoi ça? Et il est mekayem, c'est-à-dire qu'il réalise cette vérité, emuna ça veut dire vérité, qu'il a donnée aux dormeurs de la terre. C'est qui les dormeurs de la terre? En général, ceux qui sont afar, zemete afar. Ceux qui sont morts, ils sont dans la terre. C'est qui les dormeurs de la terre? Eh bien, les dormeurs de la terre, nous dit le Talmud, c'est tout simple. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Ils sont appelés par le prophète Yeshene Chevron. Yeshene Chevron. À la fin que nous dira le Midrash que lorsque Amisraël était en danger, eh bien, Yirmiyahu Hanavi vient les voir et leur dit: comment vous pouvez dormir? Réveillez-vous! Réveillez-vous, Yeshene Chevron! Avraham, Yitzhak, Yaakov dorment. À tel point qu'il y a une partie des décisionnaires de la Halakha et une grande partie des décisionnaires de la Kabbalah qui vont dire qu'un Kohen a le droit de rentrer dans Meharat HaMarpela, dans la grotte de Marpela. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, une des raisons, je ne vais pas rentrer dans le débat halakhique, mais une des raisons, c'est parce que n'y a pas de Touma à Hebron chez les Avot. Parce qu'ils ne sont pas vraiment morts. Ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Donc, il n'y a pas de Touma, donc un Kohen, il peut y aller. Et le grand-père du Chida les a réveillés. Nounou, lol, Bekitsour, Yeshene Chevron. À tel point que, semble-t-il, kacha ma soret, que si on arrivait à aller jusqu'en dessous de la Mehara Mamash, jusqu'à l'endroit où sont entreposés Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Véléa, eh bien, on verrait là-bas des vieillards qui font dodo. On verra. J'en sais rien. Mais le fait est qu'ils sont considérés pour nous comme étant des yeshenim ba'afar, et l'obébet metim. Donc, il semblerait qu'ici, qu'on fasse référence à Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quelle est donc cette émouna, cette vérité que Dieu doit réaliser, cette promesse qu'il a faite à Avraham, Yitzhak, Yaakov? C'est pas compliqué. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est vraiment pas compliqué. Il en a fait deux. Am Israël, Eretz Israël. Voilà les deux promesses que Dieu a faites à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout simplement. Donc, en d'autres termes, c'est quoi la réalisation, la triata metim pour Abraham, Yitzhak et Yaakov? Eh bien, on parle ici de la triat hametim nationale, du peuple juif qui revient sur sa terre. En d'autres termes, c'est quoi Umekayem Emunato Lishene Afar? C'est le sionisme. Lorsque Am Israël revient sur la terre d'Israël, à ce moment-là, Dieu réalise la promesse qu'il a faite à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Umekayem Emunato Lishene Afar. Micha Mocha. Baal Gevurot. C'est-à-dire, il y en a plein qui ont des yecholot, des gvurot, des possibilités, comme on a dit tout à l'heure. Ou midomelach, c'est-à-dire que personne ne peut donner la vie. Melech, memit ou mechaye. Mise memit ou mechaye. D'habitude, on a dit mechaye metim. Mais c'est memit ou mechaye. Eh bien, si on avait parlé tout à l'heure de mechaye metim, rachamim rabim, c'est les rechaim. Mémit ou Mechaye, il s'agit des tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que tzadikim, afilu bemitatam nikraim chayim. C'est-à-dire que les tzadikim, même après que physiquement ils soient morts, ils sont toujours appelés chayim. Alors évidemment, pour la Torah qui continue à vivre après eux et qu'ils ont transmis, bien sûr. Mais il y a une autre dimension qui est tout simplement le fait que gam lao, ils sont poalim. Ils bossent. Et donc, ils sont vivants. À 100%. Oui, mais alors, ça veut dire qu'on se répète, vu que juste au-dessus, on dit « Omevi Goel, Ivne Benem, Eman, Shemo ». On fait référence là-bas, au Shem, Amechulal, Bagoim. Bien sûr, on ne se répète pas. On dit que Dieu, là-bas, on a dit que Dieu, il amène la Géoula et c'est sa carte d'identité. Rappelle-toi, la première bracha, c'est pour dire qui il est. Donc, quand on dit « Omevi Goel, Ivne Benem, Eman, Shemo », c'est sa carte d'identité de ne pas vouloir que son nom soit profané. Donc, Mevi Goel Ivne Benem le Ma'an Shemo. Ici, dans cette bracha, on te dit que c'est lui qui est, c'est ce qu'il est capable de faire. C'est pas seulement sa carte d'identité, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il veut faire. Maintenant, il veut faire ça par notre intermédiaire. Donc, on te dit ici que il est Mekayem Emunato Lichene Afar. Et donc, il va le faire. OK? Donc, je reviens sur mon histoire de tzadikim. Memit ou Mechaye. Pour que les tzadikim, eux aussi, ils aient ce ressenti de tria, de revenir à la vie, eh bien, il faut que juste avant qu'ils reviennent, ils ressentent la notion de mort. Et donc, pour les tzadikim, Memit à un moment donné, ou Mechaye. Veneemanata. Memit ou Mechaye, c'est-à-dire, ou Matsmiach Yeshua. C'est-à-dire que ça, c'est la dimension de patience que les choses avancent doucement, doucement, mais elles avancent. Veneman ata leachayot metim. Et tu es Neeman, c'est vrai, on le sait, que tu vas être mechaye metim. Et là, on parle de quoi quand on dit leachayot metim? Eh bien, on parle de toute la vie. On parle de toute la vie en général. Veneman ata leachayot Metim, c'est des kulanu. Le monde entier, comme on a dit tout à l'heure, c'est la conclusion de la beracha. Baruch ata Hashem, mechaye ametim. Et là, on parle de triat ametim, de la triat ametim qu'on attend. Alors, tu disais tout à l'heure dans les questions, mais on n'a jamais eu la promesse de triat ametim. Dans la Torah, il n'y a marqué nulle part que Dieu est mechaye metim. Donc, comment on sait que Dieu est mechaye metim? Si ce n'est pas marqué dans la Torah. Hein? Comment on sait qu'il y aura Bemet Triat Ametim? Arrête, dans la Torah orale, c'est clairement exprimé, puisque le Rambam va nous dire que c'est Echad Mi Shloshesre Aïkarim. L'un des 13 attributs de foi du peuple juif, c'est Emunah de Triat Ametim. Comment on sait? Tu me dis que c'est pas marqué? Et pourtant, je t'ai amené tout à l'heure l'exemple de Yechezkel HaNavi. Donc, si Yechezkel HaNavi, il a été capable de la Chayot Metim, ou Eliyahu HaNavi, Elisha HaNavi, eh bien, ça suffit pour savoir que ça existe. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui se réveillent. Ben oui, ceux qui sont morts, sont morts. Si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Donc, le fait que la Torah nous montre qu'il y a des gens qui ont ressuscité, eh bien, ça suffit pour savoir que bah, la promesse qu'un jour viendra où Triat Ametim, c'est-à-dire où la mort ne sera plus comprise comme étant la fin du Passouk, et là, la vie sera la fin du Passouk, alors bah, c'est tout simplement la réalisation de la compréhension que Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et Haaretz. Comment est-ce possible que si c'est Dieu qui crée le monde, que Dieu qui est le pourvoyeur de vie, c'est lui qui donne la vie, eh bien, il est impossible que la mort gagne. Donc, Triat Ametim est une nécessité due à Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim v'et Haaretz. Et donc, on peut enfin dire, Bepe Malé, Baruch Ata Hashem, Mechaye Ametim. Voilà ce que la deuxième bracha nous enseigne. La deuxième bracha nous enseigne, Maou Yechol la Tetli, qu'est-ce qui peut me donner Dieu? Et la réponse est, tout simplement, la vie. À bientôt, les amis.